Olivier Mas, bonjour.
Bonjour.
Espion, agent secret, membre de la DGSE, votre nom d'emprunt Beryl 614. Vous apparteniez il y a quelques années au service des légendes. C'est quoi ce service bien particulier ?
C'est un service que je peux désigner sous le nom de service clandestin, même si c'est pas vraiment son vrai nom. Et c'est un service qui est vraiment spécialisé sur le montage de légendes avec des agents qui interviennent sur fausse identité, faux papiers et faux métiers.
Dans votre livre, vous parlez de 5 histoires, 5 portraits, 5 anecdotes tout au long de cet ouvrage. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces 5 histoires ?
C'est tout l'intérêt du livre et quand je l'ai, et c'était mon idée de faire ce livre, c'est parce que quand j'ai commencé à lire ces expériences-là, diverses, de différentes époques, même des gens du KGB, du camp d'en face, pourrait-on dire, je me suis complètement reconnu. On a eu les mêmes sélections, on a eu les mêmes formations, les mêmes réflexes, les mêmes difficultés, donc ça, tout ça résonnait en moi.
C'est quoi la vie d'un espion sous légende ?
C'est compliqué, c'est fait c'est un défi, c'est une pression permanente et c'est en même temps une satisfaction, une joie, une excitation. Quand on passe la frontière, les contrôles aéroports pour la première fois avec son passeport, on voit bien que c'est notre photo mais c'est pas le vrai nom. C'est excitant un petit peu et puis ensuite voilà, donc la vie d'un espion sous légende, c'est compliqué, c'est divers, c'est double évidemment.
Vous décrivez justement des périodes bien calmes, ennuyeuses, et d'autres beaucoup plus intenses. Qu'est-ce que vous préférez dans tout ça?
Évidemment, les périodes les plus intenses. Mais les périodes où on s'ennuie, finalement, c'est un peu le sentiment du prisonnier. C'est pas mal pour grandir aussi. Se dire, tiens, l'ennui profond, c'est quelque chose.
Alors, dans votre livre, vous décrivez à la fois le plaisir d'être dans la peau d'un autre, sous un faux nom, avec une fausse profession, mais pour une vraie mission. Mais aussi, en même temps, une certaine douleur de cacher sa propre identité. Comment faisiez-vous pour vous scinder en deux?
On y arrive finalement. C'est compliqué avant de partir en mission parce que tout se mélange. Mais une fois qu'on est sur le terrain à l'étranger, ce qui nous facilite la vie et les choses, c'est que tous nos interlocuteurs nous connaissent que sous notre faux nom. Et donc ils nous appellent par notre faux nom. Donc à chaque fois, c'est une piqûre de rappel en disant bon, je suis bien l'autre, pas de gaffe. Et donc ça aide.
Et vous avez une anecdote dans votre livre où vous racontez que vous aviez un collègue militaire qui vous a reconnu.
Oui, ça, c'est des choses, c'est marrant parce que chaque espion sous légende, tous ses collègues du service clandestin, ils ont tous une histoire un peu comme ça. C'est incroyable, comme si le monde était petit. On croise souvent, à un moment ou à un autre, quelqu'un qui nous connaît sous notre vraie identité. Et là, c'est la gaffe, parfois. Donc, il faut le tenir à distance et faut pas discuter, quoi.
Dans le processus donc de la vie d'espion, il y a la préparation de la mission et donc de la fausse identité, de la tenue vestimentaire, du comportement, rien n'est laissé au hasard. Avez-vous des exemples vous concernant, sans dévoiler bien sûr trop de détails sur vos missions, sur ces préparations ?
J'adopte un nouveau métier, donc il fallait avoir une formation parce que pour être naturel et pour épouser un petit peu ce métier, pour être crédible. Donc j'étais professeur de l'éducation nationale et donc j'ai fait un stage et je me suis mis en contact avec un autre prof et donc alors qu'on m'avait dit, on m'avait conseillé de pas être avec lui parce que justement il pouvait me détecter plus facilement. Mais donc on est allé ensemble, on a visité un musée, je n'avais pas ma carte de prof forcément. Donc il a plaidé ma cause auprès du guichet à l'entrée, il dit non mais Olivier est un véritable prof, je peux vous le dire. Et donc j'ai eu mon ticket d'entrée, tarif préférentiel prof, et donc j'en étais très content, ça a commencé bien.
Alors aussi ce qu'il y a, c'est qu'en mission, est-ce que vous êtes bien encadré ou au contraire très isolé et c'est vous qui devez tout décider presque tout seul, sans trop de contact?
Alors c'est un peu les deux, on n'est pas très encadré, on est un peu encadré, on a quelqu'un qui est chargé de nous suivre depuis Paris, qui nous envoie quelques messages de temps en temps, des messages cryptés, mais évidemment Paris est à des milliers de kilomètres, donc quand on a un incident, c'est à nous de le régler, parce que personne ne va nous aider.
Vous parlez de terrain de jeu dans votre livre, le nouveau pays en fait où l'espion doit travailler. Vous ne devez pas vous précipiter, être patient. Cette notion de temps est-elle primordiale pour la bonne réussite de la mission ?
Elle est primordiale. Et moi, ce que j'appréciais dans mon ancien métier et de ce service-là et de la DGSE, c'est qu'ils avaient l'intelligence de nous laisser le temps, de ne pas nous mettre la pression pour avoir des résultats rapides. Ce genre d'infiltration, ça se fait au long terme. C'est des contacts, il faut se rendre sympathique, il faut commencer à connaître du monde. Donc on nous laisse le temps. Et puis au bout de 6 mois, on se dit, tiens, c'est pas grave, il a rien ramené. Au bout de 6 mois, ça va commencer à rentrer. Et ça rentre, et il faut le temps.
Quel est le niveau de secret que vous devez avoir au service des légendes concernant votre profession? Que pouvez-vous dire et ne pas dire? Est-ce que cette situation avec votre famille, vos proches, est-ce que c'est compliqué à gérer?
C'est forcément un peu compliqué. Alors évidemment, les proches, le conjoint sait qu'on est à la DGSE. Ma femme savait que j'étais dans un service clandestin, donc je savais que je partais en mission. Pas forcément où précisément. En tout cas, ce qu'elle ne savait pas du tout, ce qui était fermé à double tour, c'était le nom, mon IF, identité fausse, mon métier. Voilà. Donc ça, c'est personne ne sait, quoi. Et même au service, très peu de gens savent. Les légendes, c'est très protégé.
Et vos amis, vos voisins, dans votre vraie vie, dans votre vie de civile, ils savent quoi?
Ben moi, j'avais un truc en disant j'étais militaire, effectivement. Je travaillais au ministère, à l'état-major de l'armée de terre. Et donc, j'étais au bureau effectif et je faisais des tableaux Excel toute la journée. Donc, c'est tellement ennuyeux que les gens passaient à autre chose et on parlait d'autre chose.
Et vous vous sentez plus à l'aise dans votre vie normale ou dans votre vie de couverture?
Eh bien, les deux, pareil. Parce que justement, je m'étais créé un personnage qui me ressemblait un petit peu. Même si je suis pas, enfin oui, j'ai peut-être un côté un peu prof de pédagogie, et donc j'étais. Et c'est ça la clé aussi d'une bonne légende, c'est de prendre un personnage de qui on est proche, et donc la clé c'est ça, c'est d'être à l'aise aussi bien dans sa vraie vie que dans la vie de l'autre.
Et vous n'avez pas voulu continuer à apprendre aux autres, aux jeunes, aux, à certains militaires qui auraient envie de faire la même profession que vous?
Si, mais voilà, c'est un peu ce que je fais avec ma chaîne YouTube Talks with a Spy, qui est vraiment, qui traite de ces sujets-là. Et ça a un côté pédagogique qui peut, ceux qui sont intéressés peuvent aller voir et prendre ce qu'il y a à prendre.
Et là, vous n'êtes pas frustré de cette nouvelle vie que vous avez maintenant?
Du tout. Je suis très content d'avoir débranché le fil de l'adrénaline. Ce qui fait, puis ensuite, voilà, je parle un peu plus à ma famille qui me disent, tiens, enfin, tu discutes plus de ce que tu faisais. Donc non, je trouve un nouvel équilibre et en même temps toujours avec ces sorties de livres, cette promo, des moments d'adrénaline encore, donc c'est très bien.
Olivier Mas, merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « J'étais un autre » et « Vous ne le saviez pas » paru aux éditions de l'Observatoire.